Les bouddhas, dharma et sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits, les dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Avec cette orientation d'éveil et cette motivation, nous allons ce soir aborder le sentier de Shamatha, qui expose la progression, la voie dans la pratique de Shamatha, Shamatha Vipassana aussi, avec les étapes de la progression et les modalités de celle-ci. Ce sentier de Shamatha Vipassana aurait pu aussi se nommer le sentier de la pleine présence. Nous voyons d'abord globalement qu'il y a un sentier, un chemin, avec plusieurs virages, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et différentes étapes. Il y a une première étape ici, une deuxième ici, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième étape. Dans ces neuf étapes sont les neuf étapes du sentier de Shamatha, et tout en haut, ici, c'est la pratique de Vipassana qui est finalement présentée succinctement. Nous suivons le texte de la voix du Bouddha qui nous dit l'illustration présente reproduit une xylographie tibétaine qui présente les neuf étapes du cheminement de Shamatha, donc qui est le rester tranquille, la stabilité de l'esprit, la stabilité de la pleine présence, en les illustrant par neuf scènes que nous venons de voir. Une xylographie, c'est une reproduction à partir d'un bois sculpté, une planche de bois sculpté qui sert, qui est ancrée et qui sert à faire à imprimer. Donc, nous voyons au départ qu'il y a deux personnages. Ici, le méditant et ici, un éléphant. L'homme, ici, est le sujet méditant, l'observateur. Et l'éléphant, devant son esprit. Le méditant a deux outils. Nous allons zoomer sur le méditant. Il a dans ses mains deux outils, mais avant, nous allons suivre le texte. Il dispose de deux outils pour développer Shamatha, l'attention et le rappel. La hachette, qui est une hachette incisive, aiguë, qu'il tient dans la main droite, représente l'acuité de l'attention vigile, la présence attentive. Et la corde, avec un crochet, exprime le souvenir de la pratique, le rappel. Donc, il y a une acuité une attention vigile, une acuité d'attention qui est la hachette, et ici le lasso ou la corde avec un crochet qui permet de ramener, qui est le rappel, qui permet de revenir. Comme de nombreuses distractions interrompent l'état d'attention vigilante, l'état de présence attentive. Le méditant doit y revenir par des rappels constamment répétés. Et c'est ce à quoi sert cette corde ou ce qu'elle exprime. Donc la vigilance ou l'attention est l'acuité de base. La présence attentive est une acuité qui est la base. Et le rappel est l'élément qui en assure la continuité. Maintenant, l'état de shamatha, l'état de repos tranquille et de stabilité, a deux principaux obstacles. Il y a d'une part l'agitation qui est créée par les fixations sur les pensées et les émotions, et d'autre part la torpeur, l'opacité mentale. Alors, à la première scène, ici, on voit que c'est assez agité. L'éléphant et le singe. L'éléphant est l'esprit du méditant. Il y a l'observateur et son esprit. Et l'esprit, qu'est-ce qu'il fait ici? Il galope. L'éléphant galope et il est mené par le bout du nez, il est mené par le bout de la trompe, par un singe, un ouistiti turbulent qui le mène par le bout du nez. Donc, l'agitation de la scène représente l'agitation de l'esprit et la noirceur, aussi bien de l'éléphant que du singe, représente la torpeur. La torpeur est représentée par la noirceur de l'éléphant et l'agitation par celle du singe, alors, particulièrement. Il y a aussi, on voit ici un feu qui exprime l'énergie de la situation. Et on va voir qu'au fur et à mesure des différentes étapes, le feu, l'intensité de la situation, l'énergie investie dans celle-ci décroît. Le feu qui décroît au fil des étapes exprime le niveau énergétique de la méditation. Au fur et à mesure qu'elle progresse, la pratique exige de moins en moins d'efforts. Bien. Les six virages que nous avons tout à l'heure vus, le premier étant ici, le deuxième et le troisième, les six virages du cheminement délimitent six paliers de la progression, six étapes de la progression, dominées successivement par six forces de la pratique, qui sont l'écoute des instructions, leur assimilation, leur souvenir, puis la vigilance, l'attention, la persévérance et la parfaite habitude. Donc, si on regarde ce qui se passe à la première étape, on est un petit peu fort. On voit les six virages du sentier. Vous devez arriver à lire à peu près ici. Les six virages du sentier correspondent aux six forces. La première est la force de l'écoute, la force de l'écoute des enseignements. Il s'agit déjà d'entendre l'enseignement, de le recevoir. Et c'est ainsi que l'on entre dans la première étape, que l'on réalise la première étape du repos de l'esprit, que l'on entre dans la voie, que l'on entre dans le sentier. On regarde en détail, on voit que l'éléphant est l'esprit et le noir et sa torpeur. Le singe, lui, correspond aux productions de l'esprit et le noir exprime leur agitation. Donc, les pensées, émotions agitées, noires. À partir de cette première étape, et jusqu'à la septième, la présence de flammes puis leur absence et leur différence de taille correspond à l'intensité de l'effort nécessaire pour développer le rappel et l'attention. Donc, l'intensité va décroître. On arrive au deuxième virage avec la force de la considération des instructions. On entre dans leur assimilation, dans leur considération, et c'est avec ce début d'assimilation, en les considérant attentivement, que l'on arrive à la deuxième étape. Alors, la première étape se nomme position de l'esprit, ou le positionnement de l'esprit. On se met en position, et la deuxième étape se nomme positionnement avec une durée. Donc, suivant le texte, en bordure du chemin, avant de détailler, se trouvent différents objets, comme ici, plats de nourriture, conques, petites cymbales et miroirs qui représentent les objets sensoriels. La nourriture pour la saveur, la conque qui est... donc là, ce sont des fruits qui sont là pour la saveur. Ici, l'écharpe est là pour le tact. Et si on montre un petit peu plus, on va voir la conque, c'est pour les odeurs, elle est pleine de parfums. Les cymbales, c'est pour le son. Et ici, ce qui est un miroir est pour la vue. Hein? Donc, sur la bordure du chemin, il y a ces différents objets sensoriels qui sont à côté du chemin, car le propos est de ne pas s'investir dedans, de ne pas les saisir et se fixer dessus. Donc, en bordure du chemin, sont ces différents objets qui distraient du chemin de Samatha si le méditant les saisit. Donc, si l'on regarde la première station, nous y revenons. La première station, la distance séparant le méditant ici et son esprit, éléphant, est grande. Et l'éléphant de l'esprit est mené par le singe de son agitation. Le feu est important, c'est-à-dire que la méditation demande beaucoup d'énergie et les obstacles sont à leur maximum, tout est noir. Ensuite, à la deuxième station, le méditant, grâce à son attention, la hachette ici, se rapproche de l'éléphant. Il y a déjà moins de distance. Le singe mène toujours l'esprit, mais le rythme de la course s'est ralenti. Et que ce soit l'opacité ou l'agitation, les deux ont décru et du blanc commence à apparaître aussi bien dans la noirceur de l'éléphant que du singe. Ils ont la calotte blanche, là. Donc, après cette simple attention, il y a la force du rappel. Le rappel, le souvenir qui intervient ici, qui correspond au troisième virage, et qui va faire réaliser les troisième et quatrième étapes de Shamatha. La troisième se nomme positionnement ou la position répétée. C'est le rappel qui va amener la répétition. À la troisième station, le méditant ne court plus vraiment, il marche, il ne court plus vraiment après son esprit. Ils sont maintenant face à face, ou ils se font face. Le singe est toujours en avant, mais il n'entraîne plus l'éléphant. Un contact suivi entre le méditant Et l'esprit s'est établi avec la corde du rappel. Mais c'est alors qu'une forme de torpeur subtile, qui était jusqu'alors passée inaperçue, apparaît. La torpeur subtile, c'est le petit lapin. Et on remarquera que la noirceur de l'opacité et la noirceur de l'agitation, c'est-à-dire la noirceur de l'éléphant et du singe, décroissent. Et voilà, si l'on lit les légendes, la torpeur subtile, à partir de maintenant, les formes grossières et subtiles de torpeur sont identifiées distinctement, c'est le petit lapin. Le regard tourné vers l'arrière exprime que l'esprit reconnaît les distractions, puis retourne à la méditation. On voit qu'il y a un peu moins d'énergie. Et la quatrième étape, qui est le positionnement parfait, ou le bon positionnement. À la quatrième station, l'évolution se précise. Le méditant se rapproche encore plus de l'éléphant et la blancheur du singe et de l'éléphant et du lapin progresse. La scène est plus calme, donc avec moins de torpeur, moins d'agitation et aussi moins de torpeur subtile. Et un rappel, plus de proximité et moins de feu. L'énergie de la situation décroît. Et c'est maintenant la force particulière de l'attention qui va permettre d'accéder aux cinquième et sixième étapes de shamatha. La cinquième étape se nomme maîtrise. Mais à la cinquième étape, la situation se renverse. Le méditant guide maintenant l'éléphant de l'esprit avec une attention et un rappel continu, un contact continu du rappel et de l'attention. Le singe ne conduit plus, il est même derrière. Le petit lapin est toujours là. Et la scène est encore plus claire. Moins d'opacité, moins d'agitation et moins d'opacité de torpeur subtile. À cette cinquième étape, on remarque aussi ici, sur le bord du chemin, un arbre. Un arbre noir avec des fruits blancs. Dans cet arbre, un singe blanc cueille des fruits blancs. Il représente l'activité de l'esprit s'engageant dans des actes positifs, dans des activités positives. C'est pour ça qu'il est blanc, parce, au sens qui exprime le positif, avec des fruits blancs positifs. Mais bien que de telles actions doivent habituellement être cultivées, pendant la pratique de shamatha, ce sont des distractions. Il s'agit de rester tranquille, quoi que ce soit. C'est pourquoi l'arbre est noir et se situe sur la bordure du chemin. Nous arrivons à la sixième étape. La sixième station, le progrès se précise. Le méditant conduit sans avoir besoin d'être à surveiller en quelque sorte continuellement comme il l'était avant l'éléphant. Le rappel de la méditation est constant, sans que l'attention n'ait plus besoin d'être dirigée vers l'esprit. Le lapin est parti et la situation est encore plus claire. L'éléphant est encore plus blanc et le singe l'est aussi. Et cette sixième étape se nomme apaisement. C'est alors qu'intervient la force de l'effort assidu, la force de la continuité, la force de l'assiduité, de l'entraînement continu et assidu, qui va permettre de réaliser les septième et huitième étapes du repos de l'esprit. Après l'apaisement, sixième étape, la septième est un complet apaisement, mais ça prend du temps, un effort assidu. À ce stade, la torpeur et l'agitation, qui ne sont plus que subtiles, peuvent encore apparaître un peu dans des situations difficiles. Le bout de la queue et les pattes noires. Là, lui aussi, il a pied noir et queue noire. Mais un tout petit effort permet de les abandonner immédiatement. On remarque qu'il n'y a plus de feu, il n'y a plus besoin d'effort. Donc à la septième étape, la scène est devenue très paisible, la marche n'a plus à être dirigée, la situation est devenue presque complètement transparente. Quelques taches noires signalent encore néanmoins des points délicats. Et nous arrivons ensuite à la huitième étape, qui est continuité unique, c'est-à-dire un état de continuité sans distraction. À ce stade, la noirceur de l'éléphant disparaît et le singe de l'agitation est parti. Il n'y a plus d'agitation, il n'y a plus de torpeur. Et en appliquant simplement, initialement, un tout petit peu d'attention et de rappel, la torpeur et l'agitation ne font plus d'interruption et l'on entre imperceptiblement en l'état d'absorption profond. Donc à la huitième étape, on voit que l'éléphant marche docilement avec le méditant, il n'y a pratiquement plus de noir et la flamme de l'effort a disparu, la méditation est devenue naturelle et continue. Et on arrive à la neuvième et dernière étape. À la neuvième station, l'esprit et le méditant sont tous deux au repos complet, l'un avec l'autre, assis, tranquilles. Ils sont comme de vieux compagnons habitués à rester tranquilles ensemble. Les obstacles ont disparu. Shamatha est parfait. Et l'on voit ici la force de l'habitude parfaite fait réaliser la neuvième étape du repos de l'esprit, qui est un repos complet équanime, ou complet repos équanime. Les tableaux suivants, portés par le faisceau émanant du cœur de méditant, expriment l'évolution de la pratique au sein de cet état de shamatha qui est à ce moment-là stable. Et la réalisation de l'état de shamatha est caractérisée par des expériences d'allégresse et de ravissement, de transport ou de ravissement, qui sont illustrées ici par le méditant qui est ravi, qui est emporté dans les airs, ou le ravissement de l'esprit, le méditant étant transporté par l'éléphant. En tout cas, c'est pour exprimer des expériences d'accomplissement de shamatha, des expériences naturelles qui se manifestent dans l'état de repos véritable. Le dernier tableau qui se trouve ici se réfère à la pratique conjointe de shamatha et de vipassana. Donc, au sein de la stabilité de shamatha, il y a un retour de l'éléphant, mais l'esprit le chevauche, et un renouveau d'activité. on peut lire que l'attention et le rappel énergétique partent en quête de la compréhension essentielle. Donc, il y a une quête avec l'épée de l'intelligence au sein du repos. L'intelligence va couper ces deux faisceaux qui symbolisent les deux voiles, voile de l'illusion et voile des passions. Shamatha et Vipassana conjoints sont orientés vers la compréhension de la vacuité qui va couper les racines du samsara. Donc, l'esprit et le méditant sont ensemble, l'un chevauchant l'autre. Le feu révèle une nouvelle énergie qui réapparaît. L'épée flamboyante de l'intelligence immédiate tranche les deux faisceaux noirs du voile des passions et de la dualité. Et c'est lorsque ces deux faisceaux ont été tranchés que l'ignorance sera éradiquée et que dans cette pratique de shamatha et de vipassana conjointe, les racines du samsara seront coupées et que la libération sera réalisée. Bien, eh bien, concluons par une petite pause, pleine présence. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Bonsoir, bonne soirée.